France Culture, le Book Club, Mathilde Wagman.
En cette deuxième semaine des vacances scolaires, peut-être certains d'entre vous avaient la chance de vous échapper quelques jours hors des obligations ordinaires et de vous promener à travers des collines, des alpages, dans le bocage ou dans la forêt. Autant de motifs qui constituent quelques-unes des entrées du petit abécédaire des paysages que notre invité Martin de la Soudière a fait paraître il y a peu. Une invitation à aller cheminer par monts et par vaux. Avec lui, nous parlerons des liens profonds qu'entretiennent la littérature et la géographie. Vers 15h50, nous avons rendez-vous avec Lou Quevauvillier. Chaque mardi, Lou nous parle des usages numériques de la littérature. Aujourd'hui, elle évoque un marathon d'écriture à vivre en ligne. En fin d'émission, ce sont vos trouvailles de lecture qui nourrissent le jeu des pages musicales, de façon à ce que nous puissions nous quitter en chanson. Vous avez le programme, on est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Martin de la Soudière.
Oui, bonjour à vous.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On est particulièrement heureux de vous accueillir pour ce livre qui porte ce si joli titre par monts et par vaux, Petit abécédaire des paysages, il a paru aux éditions Anamosa. C'est absolument résolument un livre de lecteur qui nous invite autant à aller parcourir les paysages qu'à lire ceux et celles nombreux que vous citez dans cet ouvrage, on va en parler. Mais dans cette émission, on commence toujours par un questionnaire qui nous permet d'en apprendre plus sur nos invités, précisément en tant qu'ils sont des lecteurs. Est-ce que vous vous souvenez avoir appris à lire, Martin de la Soudière ?
Je me rappelle avoir lu un livre, à lire, évidemment dans mon école, mais également sur le dos, si on peut dire, dans le dos de ma mère, qui lisait énormément, Mauriac et tout. Et elle avait également beaucoup parlé. C'est mon premier souvenir de lecture, c'est les comtesses de la... les lettres dont les... La comtesse de Ségur, les... Comment ça s'appelle? Je sais plus les...
Les malheurs de Sophie.
Les malheurs de Sophie, c'est ça. Alors, c'était évidemment de la littérature qui était pour elle, pour les adultes, mais nous, on, derrière son dos, elle nous l'a passé. En fait, on n'était pas vraiment de gros lecteurs. Mes premières définitions de retrouvailles, c'était avec celui qui a fait Cro-Blanc et tout ça.
Jack London.
Jack London, voilà. Donc, c'était plutôt... Et puis, ce qui nous a empêchés de lire, moi et mes frères également, c'est qu'on était abonnés, c'est tout bête à dire, à Tintin. Donc, on se précipitait sur Tintin. À l'époque, également, il y avait des...
Journal de Tintin, dont on fait cette année 70 ans,
si je m'abuse. Et donc, je n'étais pas un gros lecteur, et je n'ai pas de souvenir, à part les nouveaux contes de fées, la Française de Ségur, et j'ai pas vraiment de... Et puis, attends, je trouve pas le mot. Et puis... Jack London.
Mm-hmm. Et est-ce que vous vous souvenez, avant même ces premiers souvenirs de récits, de l'apprentissage vraiment, du déchiffrage de la lecture mot par mot? Est-ce que ça se passe à l'école? Est-ce que c'est votre mère qui déjà, avant ça,
votre mère nous prenait la main le soir, en revenant de l'étude, en de la journée, elle prenait le relais de l'instituteur ou de l'institutrice, mais je ne me souviens pas véritablement, malheureusement, le moment où je me suis mis à lire.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un lieu favori pour lire, un endroit où vous aimez bien
être ? Mon canapé.
Être
je n'en démords pas, le canapé. Toujours même coin sur le canapé. À gauche, sur la petite table, il y a une tasse de café. C'est vraiment le canapé.
En position assise, alors.
Parce que sur le lit, on s'endort trop. Debout, ce n'est pas possible. Un fauteuil, ce n'est pas agréable. Un canapé, c'est l'idéal.
Et ça se passe plutôt de préférence le matin, la nuit, le soir ?
C'est très variable. Disons que je suis pas un gros lecteur. Il me faut absolument une lecture pour m'endormir. Il faut que je lise au moins 10 minutes, même si c'est un peu rébarbatif ou si une fin de chapitre, pas forcément passionnante. Mais sinon, dans l'après-midi, je lis pas le matin. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai des courses à faire, sortir, préparer la journée, téléphoner. L'après-midi, je fais exprès de ne pas téléphoner pour pas être parasité, donc d'être complètement concentré. Et entre 3 et 5, c'est le moment où je lis le plus.
Mais ça veut dire que vous lisez pendant des plages de temps assez longues, vous assez vous plongez
long
long, dans une long, lecture.
Mais. Ayant téléphoné le matin ou reçu le coup de téléphone, normalement, je suis pas dérangé, quoi.
Je me souviens que dans votre précédent livre, Arpenter le paysage, qui est paru lui aussi aux éditions Anamosa, il y a 4 ans, et dont on peut dire qu'il forme un peu avec ce nouveau livre une forme de diptyque, vous aviez placé toute une série d'illustrations, et parmi elles des photos. Je me souviens notamment de cette photo de vous, enfant, avec vos 4 frères et sœurs, si je dis pas...
7.
Vous étiez 7 en tout. Alors sur cette photo, je sais pas s'il y avait tous les enfants, mais en tout cas, c'est ça, vous étiez avec vos frères et sœurs, et puis votre mère... dans ce qui semblait être une balade. Enfin, il y avait un paysage de montagne qui se dessinait derrière cette photo, peut-être dans les Pyrénées où vous avez
grandi. Au début, je ne voulais pas me mettre en scène. C'est une coquetterie d'auteur, mais comme j'avais déjà écrit des textes assez personnels, je ne voulais pas. Et c'est Anna Moza, quand je lui ai dit que j'avais sous la main un petit texte, un petit manuscrit me concernant, je n'osais absolument pas lui proposer. Elle a bondi sur, dire, mais non, Martin, au contraire, ça fait une très bonne introduction de ton vécu toi-même du paysage quand tu étais petit dans les montagnes, dans les Pyrénées. Ça ferait une très bonne introduction à tous les auteurs que je cite.
Ah bah, je vous confirme ensuite que la présence de ces photos dans le livre, pour votre lecteur, votre lectrice, c'est quelque chose d'assez émouvant et de très parlant. Est-ce qu'il existe une photo de vous, enfant, un livre à la main, ou plus tard ?
Non. Non, on était des sauvages avec mes frères et sœurs, surtout avec mes frères. Et donc, à partir du moment où on était dans les Pyrénées, pour un mois ou un mois et demi, on lisait Tintin, ça recommence, le journal de Tintin. Pas Spirou, parce qu'il y avait deux catégories. Ceux qui étaient pour Spirou, bah, pas idéologiquement évidemment, ceux qui étaient plus Tintin. Nous, on était Tintin, donc on les lisait. Et toute la journée, on allait, comment dire, dans le pré à côté, suivre un troupeau de vaches, se tailler des bâtons, etc., tirer à l'arc. Donc c'est ça qui nous... En fait, on n'a pas été une maison de... Ma mère... Plus que mon père, classique, lisait énormément Mauriac, des gens comme ça, un peu canoniques. Mon père ne lisait pas tellement. Donc c'est évidemment, mais c'est pas original. C'est par la mère que se fait la transmission de l'amour de la lecture. C'est par la mère et pas par le père.
Est-ce que vous êtes un adepte de la relecture ? Est-ce qu'il y a des livres comme ça auxquels vous revenez tout le temps ?
C'est pour ça que je lis peu. Je suis l'homme des relectures.
Parce que je me doutais un peu à lire votre livre, parce qu'on sent que vous avez des auteurs favoris.
Et en plus, c'est intéressant de savoir. Il y a 20 ans ou il y a 25 ans, ce qui me plaisait ou comment je lisais, le même livre, je prends Le Grand Maulne, par exemple, je l'ai reçu. Je l'ai relu il y a 2 ans, il m'a d'ailleurs beaucoup déçu, mais c'est à la fois pour voir ce que ma mémoire en avait fait, est-ce que la nouvelle lecture ne va pas enrichir la perception et le vécu du Grand Maulne.
Est-ce qu'avec le recul des années comme ça, il y a un livre que vous choisiriez aujourd'hui pour l'offrir à la personne que vous étiez à 20 ans ?
Si j'avais 20 ans, qu'est-ce que je...
Aujourd'hui, si vous aviez en face de vous le jeune homme que vous étiez quand vous aviez 20 ans, quel livre vous choisiriez de lui donner que vous ne connaissiez pas à cette époque-là, dont vous pensez
Giono,
que peut-être...
Il... Jean Giono, que j'ai découvert très tard, le coup de 20 ou 22 ans, quand je commençais mes études de géographie. Alors Giono, pour moi, c'était un must, etc. Et donc, un jeune, actuellement, je lui donnerais du Giono. Anne Beaumugne ou Colline.
Est-ce que lorsque vous partez arpenter les paysages, lorsque vous-même vous allez marcher, que ce soit pour les enquêtes de terrain que vous avez pu faire sur la ruralité, notamment dans le cadre de votre travail d'ethnologue, ou que ce soit en vacances pour vos loisirs, est-ce que vous êtes du genre à mettre des livres dans votre sac ?
Ben non, justement. Il me faut un livre, mais si vraiment je marche longtemps, le chemin de Saint-Jacques que je n'ai pas fait, ou alors de gîte en gîte, en fait, j'ai uniquement des guides de la région où on va. Un livre, si vous êtes plus petit, pour pouvoir m'endormir, c'est une espèce c'est une manière de rentrer dans la nuit. Il faut quand même que je lise 10 jours. Dans ce que je fais, je prends un petit livre qui ensuite sera maculé, tordu, griffé, mais c'est la vie d'un livre également, je crois que c'est important, se l'approprier. Et par exemple, j'ai fait quelque chose qui heurte beaucoup de mes camarades ou des amis, je fais plein d'annotations en marge, j'en fais beaucoup. Bon, mais même pas au crayon, même au stylo à feutre et tout. Pour moi, un livre qui vit, c'est un livre qui a été trituré, qui reste avec moi dans mes déplacements, dans mes jours, dans mes journées. Je n'ai pas du tout la métaphysique du livre ou une idolâtre. Les livres, ça doit servir, mais j'ai pas envie de les encadrer, quoi. J'ai pas envie de les mettre à mon mur.
Est-ce que vous offrez beaucoup de livres à ceux que ça vous entoure ?
À vrai dire, pas tellement. C'est trop difficile pour les gens. Ben, je suis assez difficile. En plus, je n'ai pas une culture de livres énorme. Donc, ce serait un peu des livres que j'ai lus. Moi, ce serait une projection que j'aurais par rapport à eux. Non, par contre, dès qu'un livre sort, je demande à l'éditeur je rachète à petit prix une vingtaine de livres, parce que j'ai beaucoup de plaisir à les rendre, à les donner, parce que ça fait partie de moi.
Vous parlez de vos propres livres. Des livres que vous avez écrits.
Circuler, c'est merveilleux.
Est-ce qu'il y a des livres que vous n'avez pas lus aujourd'hui et avec lesquels vous avez l'impression d'avoir comme un rendez-vous, des livres qui vous attendraient comme ça ?
Bah Proust, comme tout le monde, Marcel Proust.
Je vous confirme que c'est la réponse qu'on nous fait le plus souvent.
Et puis Stendhal également, Le Rouge et le Noir, j'aimerais bien le lire. Votre question, c'est ça.
Oui, des livres que vous n'avez pas lus mais dont vous vous dites que,
que quelque chose se passerait si vous les découvriez.
Philippe Roth, grand, il est mort il y a 2 ans, je crois, ou 1 an.
Ouais, un 2 ans. Plus, je crois. Ouais.
Tout le monde en a parlé. Je vais l'acheter, je vais le lire avec beaucoup de joie, parce que je reconnais que mes lectures, elles sont quand même très hexagonales, bon, européennes quand même, mais malgré tout, les livres sud-américains ou sud-américains, je ne les lis pas énormément.
Est-ce que dans le paysage comme ça, de toutes les lectures que vous avez traversées dans votre parcours, Martin de la Soudière, vous diriez qu'il y a eu autant de romans, de fiction en tout cas, que de sciences humaines, puisque vous êtes chercheur en sciences humaines.
C'est ça qui est peut-être un peu contrecarré. Mon goût de la lecture, actuellement ou depuis 20 ans que j'étais au CNRS et tout ça, malheureusement, les livres à lire, quand vous êtes sociologue ou géographe, bon, mais c'est énorme, les thèses entières que vous lisez, donc je pense que ça prend la place. On n'a pas forcément envie, ensuite, quand on est chez soi, sans obligation, de reprendre un livre. C'est pas évident, ça me joue souvent des tours, et je regrette énormément.
On va
lire une thèse, ça veut dire une semaine. Alors, j'ai pas dirigé beaucoup de thèses, même très peu, mais à chaque fois, quand je dis une semaine, c'est vraiment une semaine.
Oui, j'allais dire une semaine si vous allez relativement vite. Parce que
moi, je ne suis pas un grand chercheur. Je suis resté chargé de recherche au CNRS. Il n'empêche que j'ai, dans 4 ou 5 fois, accepté de faire partie d'un membre du jury, pas de présider, d'être membre du jury. Au total, 4 ou 5 fois, à chaque fois, 4 ou 5 semaines où je ne lis pas.
Et est-ce que vous diriez
je lis la thèse.
Est-ce que vous diriez qu'il y a, malgré le caractère parfois un peu ardu de ce type de lecture-là, par exemple la lecture d'une thèse, un plaisir malgré tout du lecteur de lecture ?
Oui, un plaisir, parce que dans les quelques thèses auxquelles j'ai participé, si on peut dire, comment dire, il y a toujours des passages descriptifs. Alors, ça peut être le vent, ça peut être à Nantes, ça peut être un quartier chaud, ou du moins un quartier... comment on dit, un quartier innovant avec des bio, etc., des petits jardins partagés, des petites maisons, comment ça se passe, par exemple. Donc là, ça m'apprend quelque chose, véritablement, et souvent c'est très bien décrit, très bien. Alors là, je ralentis, et là je regarde autant le style, évidemment, que le contenu.
La description, c'est l'un des éléments qui est très important.
Mais qui n'est pas forcément facile, parce qu'on peut tomber, une description peut tomber sur des choses plates ou qui ne donnent pas assez, où on rentre trop dans ce qu'on veut dire, il n'y a pas assez de hauteur, il n'y a pas assez de parti pris, il n'y a pas assez de surprise.
Ouais. Et vous en faites des descriptions
dans ce dernier livre. Mais on y reviendra un peu plus théorique. Théorique, c'est un grand mot.
On va plonger dans ce dernier livre, Martin de la Soudière. Pour y aller, je vous propose que l'on écoute ceci.
D'en haut des volcans, j'ai pris des pierres de lave. J'ai bu l'eau des rivières, vidé les océans. J'ai bu l'eau des rivières, vidé les océans. J'ai rêvé dans les flammes qui éclairaient la dune. Et j'ai fait mes armes en écoutant le vent. Et j'ai fait mes armes en écoutant le vent. J'ai percé des soleils et des jours sans lumière. J'ai défié l'aurore, dansé dans la poussière. J'ai défié l'aurore, dansé dans la poussière. J'ai psalmodié d'étranges récits du fond des âges. J'ai emprunté des langues que l'on ne connaît pas. J'ai emprunté des langues que l'on ne connaît pas. J'ai le feu des entrailles qui remonte souvent. Et soigner des colères, des brûlures, des absences. Et soigner des colères, des brûlures, des absences. J'ai porté aux étoiles les espoirs, la rage. Et je donne mes armes à celles qui n'en ont pas. Et je donne mes armes à celles qui n'en ont pas. J'ai le feu. maintenant. Et je chante sous la lune pour qu'à ma voix chacune retrouve son chemin. Je chante dans les nuits et mon souffle retient les loups au loin. Retient les loups au loin.
France Culture, le Book Club, Mathilde Wagman.
Pour présenter votre livre Martin de la Soudière par Mons et par Vaux, petit abécédaire des paysages, on pourrait en citer tout simplement les tout premiers et les tout derniers mots. En exergue, cette citation d'Emmanuel de Lamartine, le fondateur de la géographie moderne.
Excusez-moi, Emmanuel de Martine.
De Martine, pardon, merci de me corriger, au contraire, vous avez raison. De
Martine, grand géographe.
Voilà, alors je cite donc cette citation que vous placez en exergue. « La géographie répond à l'un des besoins les plus essentiels de la nature humaine, celui de fixer le souvenir des lieux qui nous entourent. » Et en conclusion du livre, ces mots, les vôtres, « Malgré les apparences, l'homme est en réalité toujours présent dans ce livre, mais en filigrane. Plus que les paysages stricto sensu, les motifs choisis et présentés sont autant de lieux où vivre. » C'est un livre à la forme profondément singulière que cet abécédaire qui nous fait passer de l'alpage à la lande, du col au marais, du sommet aux forêts, en traversant aussi les départements, le brouillard, le verger. Autant de motifs qui dessinent une invitation à nous rendre sur place, à arpenter à notre tour ces paysages que vous évoquez. On peut parcourir le livre comme un sentier du début à la fin ou en faisant des bonds, en butinant d'un motif à l'autre. Et en suivant aussi les différentes approches que vous tissez entre géographie et littérature, entre poésie et typologie, entre approches personnelles et polyphoniques aussi par moment. Comment est-ce que cette forme très particulière, très singulière, elle est arrivée sous votre plume, Martin de la Soudière?
Parce que j'avais envie. En fait, ça c'est simple. Quand j'étais sur Arpenter le paysage, mon livre précédent, j'y avais pas pensé, mais une fois qu'il était fini, je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas inverser la logique, le logiciel, si on peut dire, ou de parler des auteurs, je parle des lieux. J'essaie de faire parler les lieux, les bonifier également, les présenter, et alors, autant chaque auteur a un type de lieu, mais là je parle du lieu pour arriver aux auteurs. Alors pour arriver aux auteurs, comme je suis, c'est pas original, mais un peu polyvalent, je suis géographe, ethnologue, et éventuellement on peut considérer que je suis écrivain, mais pas complètement. Donc la littérature, la géographie et le caractère personnel du rapport qu'on a à ces différents lieux, comment les lieux les font émerger, et finalement c'est de les montrer, mais également de les faire chanter, même des lieux banals, parce que ce livre également est... En Medjugorje, il y a une règlement de compte contre les hauts lieux, le tour de France, les routes du Tour de France, le Mont Blanc aussi. Et donc toujours, je prends des lieux un tout petit peu en dessous de leur notoriété pour montrer que eux aussi, ils sont facteurs de rêve et de réalisation.
Oui, vous le dites au début du livre que c'est dans une forme de refus du haut lieu, en effet, que vous travaillez, dans une forme de recherche d'une sorte d'infraordinaire des lieux.
Voilà. Mais alors, il y a une chose que je voudrais lire très rapidement, c'est que finalement, faire un abécédaire des lieux, c'est pas forcément original, c'est une tradition à la fois récente et l'autre, c'est la rhétorique chez les latins, l'autre c'est la Chine antique, des types de lieux, rhétorique du Moyen-Âge. Il faut parler des sources, des plantations, des jardins, de la brise légère, des fleurs, du chant des oiseaux, les fruits, le fruit, la forêt, la plaine arrondie en colonne. C'est-à-dire que dans les matières de rhétorique jusqu'au XVIIe siècle, on proposait de faire des types des petits modèles de paysages, et ensuite les écrivains avaient... Et alors ensuite, dans la Chine antique, donc c'est beaucoup plus présent, sous la plume, évidemment, Augustin Berck, très joli également. Alors j'ai voulu faire, non pas comme ça, mais ça m'a donné l'envie, ça a légitimé mon approche un peu plurielle. Donc dans la Chine antique, il distinguait pour la lecture, mais également autant pour la peinture, une pluie d'automne, très beau, une pluie d'automne, une pluie nocturne, la cloche du soir du monastère dans la brume, le village de pêcheurs au soleil couchant, un village de montagne, après l'orage, neige sur le fleuve au crépuscule. C'est donc une manière de distinguer les lieux et de les enrichir d'une manière totalement poétique. Alors j'ai essayé de faire cette poésie, est-ce que je suis arrivé ? Le lecteur le saura.
Il y a 22 entrées dans le livre qui sont autant de motifs paysagers. Vous nous le dites d'emblée dans l'introduction du livre, qui est titré « Plaidoyer pour les motifs paysagers ». Qu'est-ce que c'est le motif en la matière, Martin de la Soudière ? Est-ce qu'il faut l'entendre au sens pictural du terme ?
Pictural et littéral, enfin, et scriptural également. Je pense que les lieux, comment dire, l'image du lieu renvoie au lieu, le lieu renvoie. Il n'y a pas de préséance, comment dire, c'est pas l'un par l'autre, mais je reconnais, alors là, c'est une que j'ai pas développé des commentaires de lieux dont j'aurais, il n'y a pas du tout d'illustration, sauf des illustrations. Alors ça j'étonne énormément, malheureusement, ils ne sont pas en couleur pour des raisons de coût, c'est des vieux livres de géographie.
Ah oui, vous parlez des dessins qui se trouvent sur la couverture
en couleur, donc on a le sommet, le plateau, la vallée, le torrent, les collines. On a un petit peu tout. Malheureusement, ce qui est un tout petit peu dommage, c'est qu'on ne les voit pas suffisants. Et donc, c'est... Voilà.
Mais il n'y a pas d'illustration, mais non. Cependant, vous entrez dans... enfin, on a l'impression, à lire votre livre, de traverser plein de paysages singuliers. Vous citez des lieux très précis. On a l'impression, comme ça, de traverser la France de haut en bas, d'est en ouest. Donc, illustration, non, mais incarnation.
Incarnation, oui. Oui. C'est finalement que n'importe quel lieu, même banal, ou même pas valorisé, ou un peu dédaigné, a sa propre valeur. Je parle, par exemple, des Landes et des Marais. On n'y regarde pas tellement, c'est Landes et les Darrets, parce que c'est pas un haut lieu, ce n'est pas classé au patrimoine mondial de l'humanité. À la fois, c'est trop localisé dans ma description, souvent avec des noms, des pics, etc. Mais ce n'est pas tellement la manière singulière que je traite les lieux, mais c'est à partir des lieux, tout l'imaginaire qu'il y a autour. Mettons, je prends n'importe quoi, mettons la barre des écrins, c'est à la fois une barre des écrins définitivement, mais en même temps, elle conduit à toutes les barres des écrins possibles et imaginables. Donc il y a un jeu entre le particulier et le général, qui est très bien dit, maintenant je ne sais pas où, par Georges Bertrand, qui est un grand géographe de Toulouse.
Que vous citez à un moment dans le livre.
À un moment, je ne retrouve pas la citation, il dit « Tel pic, il est à la fois ici, singulier, et en même temps généralisable, tous les motifs. »
Très concrètement, comment vous avez procédé pour commencer ? Vous avez fait une liste et vous êtes tombé tout de suite sur ces 22 motifs-là, ou est-ce qu'il y en a que vous avez dû écarter, non pas parce qu'ils ne vous intéressaient pas, mais parce que vous vous êtes dit qu'il fallait rester dans une dimension praticable ?
Non, je n'ai pas décidé d'aller de A à Z. Surtout, il y a des lettres que je n'ai pas pu utiliser. W, X, Y. Alors, je demande aux chers auditeurs, auditrices, s'ils ont des mots relatifs au paysage à partir de 3 lettres de l'alphabet. Je suis partie prenante. Et également, il manque, pour des raisons techniques, il y a un modèle qui manque, c'est Ruisseau. Ça paraît très important aussi. Ça faisait, comment on dit, ça renvoyait à l'étang également. Donc, c'était complémentaire.
Il y a énormément d'auteurs et d'autrices que vous convoquez, que vous nous faites lire, relire ou découvrir dans cet ouvrage. L'un d'entre eux, c'est bien sûr Julien Gracq. Hein, s'il y a un homme,
un écrivain français. Oui, c'est mon poisson pilote, évidemment.
Oui, qui,
en plus, il est géographe, n'oublions pas.
Voilà, exactement ce que j'allais dire. S'il y a un homme qui a travaillé les liens entre littérature et géographie, c'est bien lui. Je vous propose qu'on l'écoute. C'était dans une archive diffusée sur France Culture en 2000.
Le paysage m'intéresse. Il m'intéresse tout de même en géographe. C'est-à-dire que quelqu'un qui a fait de la géographie, plus exactement de la morphologie, c'est-à-dire l'étude des formes du terrain, ne regarde pas le paysage comme un voyageur, comme un touriste. Il regarde plutôt, je dis, comme un chirurgien peut regarder une statue. C'est-à-dire qu'il sait comment c'est fait. Il a étudié, il connaît l'ossature géologique du paysage qu'il y a dessous, tout comme le médecin regarde une statue en voyant jouer les muscles, les os, les attache et vérifie. Il a un sentiment structurel du paysage. Je dis, c'est une vue plutôt cézannienne du paysage plutôt qu'impressionniste, qui est celle des gens habituellement. Parce qu'on sent, sous l'aspect, le manteau végétal, on sent l'ossature, on la connaît. Alors c'est un sentiment de solidité, et bien ça donne aussi un sentiment d'unité, parce que ce paysage est un seul tenant. Tous les éléments s'emboîtent les uns dans les autres. Alors que la plupart des gens, en voyageant en général, ont l'impression d'une espèce de diorama qui se déroule, ils ne savent pas pourquoi. Il y a des collines, puis d'un coup il y a une rivière, puis des montagnes. Ça vient là très souvent, ils ne se préoccupent pas de l'enchaînement.
Beaucoup de choses oui. dans cette belle archive, dans la pensée de Julien Gracq, oui, Martin de la Soudière. Comment vous êtes comme lui géographe hein, de formation, c'est votre première discipline, si on peut dire. Qu'est-ce que le regard du géographe change, selon vous, à la perception ou à l'expérience, tout simplement, qu'on peut faire d'un paysage?
Il l'enrichit, surtout, il l'enrichit. Donc, je pense que c'était mon... C'est pas très original, là encore, mais les trois... Les trois sources de ce que j'écris, j'ai essayé de les mélanger harmonieusement, de ne pas donner plus d'importance à l'un ou à l'autre, qui me parle, les trois dimensions, il l'a bien dit d'ailleurs, de Martin que vous avez cité, c'est-à-dire la littérature, la géographie, et puis très modestement, enfin pas modestement, n'importe, des expériences que moi j'ai eues des paysages. Alors je vais en prendre un exemple. Pour vous montrer que les trois sont littéralement incluses. Et alors, ce que je dis également, c'est important dans mon livre, là, c'est un travail une réflexion d'auteur dans mon livre, ces trois niveaux, ces trois sources d'émotion du paysage, de perception du paysage, je les mets jamais dans le même sens. Tantôt, je commence par moi, tantôt, je passe, par exemple, par la littérature, et tantôt par la géographie, pour casser une éventuelle monotonie. Et pour montrer comment ces trois disciplines, convergent pour vraiment comprendre un paysage. Page 125, la lande, territoire incertain. Interlude, paragraphe, le Cotentin et le paysage, avec Marie de Révilly. Ensuite, le Morbihan et le sociologue, le Poitou du géographe.
Et ensuite, là, vous parcourez hein, les pages de votre livre cette entrée qui est celle de la lande.
Et ensuite, là, je mets à la fin, impression d'un promeneur faussement naïf. Voilà. Pour vous montrer que, voilà. Mais à chaque fois, il n'y a pas dans le même. Selon le motif paysager que je travaille, ça prête plutôt à la littérature et à la géographie. J'en prenne beaucoup à la géographie d'ailleurs. Un petit peu trop peut-être.
Dans cette archive, Julien Gracq disait que le géographe regarde le paysage comme un chirurgien. Il a cette métaphore comme ça de l'ossature géologique du paysage notamment. Est-ce que c'est quelque chose, une idée à laquelle vous souscririez?
Oui, c'est-à-dire que, c'est pour reprendre l'expression de Georges Perec, c'est tentative d'épuisement d'un lieu. C'est-à-dire que, pour l'épuiser, il faut regarder précisément ce qui donne la main à la lecture, qui donne la main à tel auteur, qui donne la main à moi-même. Et donc, à chaque fois, je creuse effectivement ce regard, cette citation, alors au plus près de mon objet. C'est-à-dire que je ne fais pas je racole pas mes objets à n'importe quel lieu, mais par contre, je ne trouve pas l'autre mot, investissement, exercice d'admiration, peu importe.
À la fin de l'archive qu'on vient d'entendre, Julien Gracq parle aussi...
Non, je trouve pas. Je suis failli...
J'aimerais beaucoup vous le souffler, mais bon, je n'arrive pas à deviner le mot que vous avez en tête. Mais à la fin de cette archive qu'on vient d'entendre, Julien Gracq parle de la question de l'enchaînement d'un paysage à l'autre. C'est une des thématiques sur laquelle vous revenez beaucoup dans cet abécédaire, Martin de la Soudière. La question du seuil, de la frontière, du passage d'un paysage à un autre, qui est quelque chose de très difficile à saisir, finalement. Je me souviens d'un moment comme ça où vous citez des exemples très concrets. J'ai retenu le passage du Diwa au Vercors, ou dans l'autre sens, où ces moments comme ça.
Le piment, la montagne et tout ça.
Voilà, où on éprouve.
Quand le motif est appelé déjà parce qu'il entoure. Et ça fait une continuité, ça fait un récit géologique ou géomorphologique.
Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette notion-là du seuil entre deux paysages?
Parce que ça me passionne de manière assez personnelle. Je pense qu'on regarde toujours là où on va arriver et l'endroit. Mais c'est valable pour plein de choses. Pour descendre en vacances, c'est pareil. Soit on va dans un but et le chemin il n'existe pas, ou du moins on le nie, ou au contraire, on fait une montagne, ou alors on va en vacances en voiture, en mettant 2 ou 3 jours, en valorisant, il n'y a pas de petit paysage, tout paysage. Et alors par rapport à ça, je ne le mets pas dans ce livre, mais dans Arpenter le paysage, un collègue malheureusement disparu, géo-agronome, comme il se dénomme, Jean-Pierre Desfontaines, il prend le TGV et il fait 10 petits croquis et 10 lignes de définition de tous les paysages qu'il voit en TGV, fenêtre de gauche, de Paris à Marseille. C'est le seul exemple que je connaisse d'un écrivain, enfin lui il est écrivain aussi, chercheur, agronome et géographe, qui arrive, parce que c'est presque une assaise d'aller très vite. On est évidemment déçu parce qu'on ne peut pas rester un beau paysage, on ne peut pas rester longtemps dessus. Mais justement, son idée, c'est qu'il n'y a pas de paysage laid. Un paysage n'est jamais laid, même s'il est encombré de grues, de machines énormes, etc., ou de lieux en construction. N'empêche que tous ces lieux sont banals éventuellement. C'est beaucoup le banal que j'ai voulu. Or, d'ailleurs, la découverte des paysages, mais pas en auto, ni en TGV, mais plutôt à vélo ou avec une vieille de chevaux, comme faisait Julien Gracq. Et donc, ce trajet paysager, je pense qu'il est malmené. Il n'est pas tellement pris en compte par les paysagistes qui restent sur un point précis pour paysager donc l'espace, l'environnement. Mais en fait, ça reste local. Et le trajet, j'espère avoir rendu à votre question, qui est une...
Oui, absolument, absolument. C'est intéressant parce qu'en fait, c'est entre deux points. On aurait d'un côté l'extrême qui serait le parcours en TGV, c'est-à-dire à très grande vitesse. Et puis de l'autre, Julien Gracq parlait de Cézanne tout à l'heure. On peut imaginer le peintre devant son motif qui est fixe à un point fixe dans le paysage. Vous, on sent qu'il y a dans ce livre un mouvement qui oscille, qui cherche à se placer entre les deux, dans un mouvement qui peut être celui de la marche ou d'un parcours à rythme plus léger.
Pour répondre à votre question, les trois sources de donc la géographie, la littérature et l'expérience personnelle, on va de l'un à l'autre. Alors c'est pas forcément aller d'un motif à un autre, c'est au sein, par exemple, je sais pas, mettons Landes ou Marais, on part de un voyage qu'on propose parce que les lieux sont pas exactement les mêmes. Quand on démarre avec tel marais, on le retrouve ensuite, donc il y a le passage de tel marais à tel autre dans la même journée, et à mon avis c'est pas assez pris en charge par les géographes et par les paysagistes qui restent plutôt sur un lieu précis. Alors évidemment, il le dissèque, comme vous le dites, en citant Gracq d'une manière extrêmement pointue, mais c'est pas exactement moi, c'est toujours un motif par rapport à un autre. Je prends l'exemple de la vallée. Je dis que la vallée, elle n'existe que parce qu'il y a les montagnes. Et les montagnes n'existent, c'est un peu bête, un peu naïf. Et les montagnes n'existent que par une vallée. Donc, une interconnexion, et l'une renvoie à l'autre et l'autre à un. Alors, chaque paysage, chaque motif, pour dire les choses un peu gaillardement ou rapidement, a besoin d'un autre motif.
Il n'existe pas sans les autres.
Il n'existe pas. Et donc, ça remporte à votre question, comment dire, le passage de l'un des motifs à un autre fait partie également de mon parti pris d'écriture.
Oui, c'est aussi un principe de construction du livre. Je vous propose qu'on plonge dans votre écriture, Martin de la Soudière, qu'on écoute un extrait de votre livre. Nous sommes à la lettre C, comme col, entrée qui porte ce titre, le col comme passage. Précisément, c'est Léa Weiss-Grus qui va nous lire ce texte.
Voir, c'est avoir déjà vu. Fernando Pessoa. Petite leçon de géographie culturelle. Nous voici dans les Pyrénées centrales, près de Bagnères de Luchon en Barousse. J'étais préadolescent. Avec mes frères et sœurs, nous parvenons au col de l'Aouette, 1876 mètres d'altitude. Il y avait quand même auparavant 3 bonnes heures à marcher. Comme lorsqu'on passe une frontière, émotion. Un autre monde devant nous, une toute autre vallée, un nouveau panorama. Prends alors corps, enfin, ce qui n'était pour moi qu'un motif géographique dans mon manuel scolaire. Presque une abstraction, en tout cas une illustration, un dessin ou une photographie. Je me souviens encore de ce moment très précis, de cette première arrivée à un col, de ma fierté d'y être parvenue. Je me rappelle ma surprise de retrouver ainsi, en compagnie de la montagne, de la colline, du canal et d'autres fleuves, le col de mon livre de géographie, son original, et non plus seulement, comme dans mon manuel, son image, son dessin. Est-ce à dire que mon vécu, mon expérience de ce lieu très précis, se trouvait parasité, subsumé, voire minimisé et dévalorisé par un paysage préexistant ? Pas exactement. En réalité, bien réel ce col de l'Aouette, originale de tous les cols possibles et de l'idée même de col. Sa matrice ne sortait pas pour autant disqualifiée par la confrontation avec l'image que je me faisais d'un col avant que de l'avoir gravi. Bien au contraire. Cette dernière, cette image, nourrissait à mon insu ce jour-là mon regard. Elle ne m'empêchait pas, concrètement, d'être assis avec mes frères et sœurs, de boire à la gourde, de vivre pleinement le moment présent, de savourer l'altitude et le paysage.
Un extrait de votre abécédaire des paysages, Martin de la Soudière, ce paragraphe qui s'intitule « Léa Weissgruss l'a lu, voir, c'est déjà avoir vu », une expression empruntée à Fernando Pessoa. Pour évoquer avec vous plusieurs choses, le lien d'abord peut-être...
Un aller-retour oui. Sur la notion de passage d'un motif à un autre, et une entrée, c'est la frontière et les confins.
Oui, absolument.
J'ai tenu énormément, j'ai eu beaucoup de mal, parce que la frontière... Est-ce un paysage? C'est souvent administratif, parfois un fleuve, parfois une rivière, souvent c'est administratif. Il n'empêche que les paysages en deçà et en delà d'une frontière politique arbitraire, souvent il y a des différences quand même énormes et des similitudes.
Oui, l'entrée du livre qui porte sur la notion de frontière, c'est pas seulement la frontière, c'est frontière et confins.
Et confins, les confins me passionnent aussi. Parce que là aussi, c'est ailleurs qu'au centre. On pense toujours au centre, il y a ce qui fait image, mais il y a aussi des choses qui font moins image, mais qui sont aussi importantes dans notre imaginaire.
Dans
la lande ou le... Voilà.
Dans ce texte qu'on vient d'entendre, je le disais, il y a plusieurs choses, mais il y a ce rapport entre l'expérience qu'on peut faire du paysage dans un livre, dans une description, dans les mots, autrement dit, dans la littérature, et l'expérience réelle du paysage, et comment l'un peut nourrir l'autre. Ce qui m'a intéressé dans ce moment du livre, c'est que c'est une thématique presque philosophique hein, que vous ancrez dans l'enfance, dans un souvenir d'enfance. L'enfance, c'est un thème, c'est d'ailleurs un titre de chapitre dans votre livre qui irrigue comme ça tout le livre. Dans l'introduction, vous dites aussi que les motifs géographiques sont comme des buts témoins de notre culture enfantine. Je cite votre
expression que j'ai trouvée récemment. Chacun pourtant lui un village. C'est pas le même, mais chacun, qu'il ait vécu en milieu rural ou en milieu urbain, peu importe, mais chacun a un modèle, et cette notion de modèle est très très importante, parce qu'elle fait référence, vous l'avez dit il y a un instant, à toutes les couches, à toutes les manières d'exprimer une réalité, c'est-à-dire littéraire, personnelle, et géographique, on pourrait même les augmenter encore, mais disons que c'est un tout, quoi. C'est pas une explication, c'est beaucoup d'explications et beaucoup d'expériences pour un seul lieu.
Ce serait quoi?
C'est un lieu modeste. Rappelons que tout mon livre, c'est une chasse au grand lieu, au haut lieu, sur lequel j'ai écrit aussi, mais en ma défaveur. Disons que ça va contre moi. Mais donc, j'ai écrit sur les hauts lieux, mais ceux qui m'intéressent sont les lieux ordinaires, banals.
Mais si on détricote un peu cette idée de but témoin comme ça, comme si l'enfance était, dans l'expérience qu'on fait des paysages, quelque chose à quoi, malgré soi, qu'on le veuille ou non, on revient toujours. Comment vous pourriez décrire cette expérience-là, à travers la vôtre, d'ailleurs?
Moi, ce qui m'amuse toujours, quand je sors un bouquin, il y a toujours des amis, ah, mais je connaissais un tel, des présentations du livre localement ou à Paris. Ah ben oui, moi aussi, ça me fait penser. À vous parler du Quercy, moi aussi, j'ai une maison. À vous parler des Basses-Alpes, moi aussi, j'y verrai. Souvent, j'aime beaucoup, et je reprends cette expression d'une collègue sociologue, chacun porte en lui un village. C'est extrêmement riche, pas le même village que tout le monde. Et puis également, par rapport au modèle, vous parlez de l'enfance, c'est l'évidence d'ailleurs, mais notre livre de lecture, les westerns, les films qu'on voit, les peintures, quand on est un peu plus grand, adolescent avec ses parents, on va dans un salon de peinture de Corot ou de Rouault, Pissarro, enfin, etc. Et à partir de là, on était impressionnés par les images que l'enfant a vues, dont il ne peut pas se débarrasser d'une certaine manière. Et c'est tant mieux.
Oui, c'est très intéressant parce que ça veut dire que c'est pas seulement les paysages qu'on traverse effectivement, dont on peut faire une expérience sensorielle, c'est les paysages de l'imaginaire aussi.
Alors tout ça se réunit, et justement, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais le parti pris de prendre trois sources d'expérience du paysage, je fais exprès de répéter, littéraire, géographique et personnel, ben c'est le faisceau que ça fait, ça donne tout le sens à un lieu. C'est pas uniquement de l'imaginaire, ce n'est pas uniquement géomorphologiquement, c'est tout à la fois. Et donc c'est ça qui fait un tout, et j'espère qu'il fait une unité par rapport à chaque entrée, de A à Z, enfin de A malheureusement seulement à S. Manque le R, vous avez remarqué, R c'est ruisseau, on s'est trompé, je me suis trompé en envoyant les documents en interdit les documents, c'est de ma faute. Mais donc dans tous les motifs que je prends, il y a toujours ces trois regards, et il me semble que ces trois regards construisent non pas le sens ultime, mais le sens le plus profond qu'on peut trouver à un paysage. Alors Julien Gracq, évidemment, malheureusement, Julien Gracq existe, que j'aurais aimé être capable d'écrire le rivage des Sirtes, ou enfin bref, ou alors c'est son dossier, le rivage des Sirtes également, enfin je trouve pas, ben, bref, Julien Gracq.
Je sais pas si vous pensez à en lisant, en écrivant, mais je me disais en lisant, en écrivant, votre livre qu'il y avait quelque chose.
Le grand chemin.
Ah oui, bien sûr.
Le grand chemin.
Ouais. Le Book Club, c'est aussi une communauté de lecteurs et de lectrices qui peuvent vous adresser des questions via le compte Instagram de l'émission. Je vous propose qu'on écoute une question de Delphine qui a lu ce livre, Martin de la Soudière, et vous adresse cette question depuis Niort où elle vit.
Bonjour Martin de la Soudière, je suis ravie de vous poser une question à travers la radio. Depuis Arpenter le paysage, votre écriture très plurielle, très sensorielle, très poétique me touche infiniment. Et je voulais vous demander si vous avez une méthodologie, si vous avez un rituel d'écriture qui vous permette d'entrer pleinement dans les paysages que vous abordez, et qui nous permettrait aussi d'avoir des clés en tant que lecteur, lectrice, pour entrer pleinement et accéder à ce paysage intérieur.
Méthodologie et ou rituel d'écriture.
Ni l'un ni l'autre. Delphine. Oui, vous avez quand même raison. Rituel d'écriture, à chaque fois, il n'y a pas donc de liaison entre les motifs les uns après les autres, parce que c'est uniquement alphabétique. Mais par rapport à un motif, disons que je regarde tout bêtement ma bibliothèque, des bouquins auxquels certains bouquins, je pense à Julien Gracq toujours, mais il y en aurait d'autres, André Dautel, etc. Enfin bref, et d'autres. Jean-Louis Trassard également en Mayenne. À partir de ce qu'ils me disent, ou à partir de je le note. Et je fais les cahiers où il y a marqué, admettons, le marais, pendant que je travaille, que j'aurai mes vieux bouquins de géo, ou alors en bibliothèque, un bouquin qui me manque, je fais des listes, et finalement, il faut que tout tienne dans une page ou dans deux pages. Donc, à chaque fois, pour chaque motif, j'ai fait la même chose, un braconnage, mais absolument pas exhaustif, tout à fait personnel. Quelqu'un d'autre, ce serait amusant d'ailleurs, de demander à quelqu'un d'autre, le sommet, le plateau, la colline, qu'est-ce que tu peux en dire, comment tu as envie de le rendre, et j'aimerais bien qu'elle fasse un peu. Donc, c'est pas vraiment une technique d'écriture, mais c'est plutôt une manie, j'allais dire, de trouver des occurrences dans d'autres livres littéraires et autres, et de les repérer et de l'utiliser à bon escient à travers en plus des autres c'est littéraires. Je vais également du côté des géographes, je vais du côté des littéraires sans aucune censure, et je me laisse embarquer parce que j'ai dans ma bibliothèque, finalement, en gros, parce que finalement la géographie, je fais en fait de l'ethnologie, mais je suis très fort par la géographie, et quand on parle d'un lieu, s'il n'y a pas l'altitude, la localisation, tout, pour moi, c'est pas un lieu. C'est une coquetterie, vous me direz. Mais bon, dans mon livre, je marque à chaque fois M point d'altitude, pour que les gens le savent et le sachent. Ça fait partie aussi, on parlait du passage, mais également le passage du petit au haut, de la petite échelle, le piémont, comme je dis, et puis ensuite le sommet dans les Pyrénées à 3000-3004. Ben c'est de passer de l'un à l'autre qui me paraît fondamental.
Mais je pense pas que ce soit qu'une coquetterie. Ça rejoint ce que disait Julien Gracq dans l'ouverture de cette émission, dans l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure. Il y a aussi une dimension très ludique. On l'entend là à vous décrire cette forme de méthode, Martin de la Soudière. Dans le principe même de la liste à laquelle vous revenez d'ailleurs souvent dans le livre, il y a plusieurs passages comme ça où il y a des listes. On pense évidemment à Pérec, que vous citez d'ailleurs, et plus généralement à Loulipo.
Tentative d'épuisement.
Tentative d'épuisement.
Il a écrit un petit livre. C'est pas pour faire savant, c'est pas mon genre. tentative d'épuisement d'un lieu
parisien. D'un lieu parisien, la place Saint-Sulpice.
Non, place de Saint-Sulpice, place Saint-Sulpice. Et pendant une semaine, il marque tout ce qu'il voit. La couleur des autoroutes, des bus. Il voit les gens qui ont des parapluies, les gens qui marchent vite, qui marchent lentement, des chiens qui arrivent et tout. Un petit livre, tentative d'épuisement. Et je crois que je suis un petit peu arrivé à une tentative d'épuisement. Non, quelqu'un d'autre ferait évidemment autre chose, mais ça fait quand même un tout, ça fait un tout, et en gros, de A à Z, vous pouvez dire m'aider éventuellement, si vous aviez un motif à me proposer pour mon prochain livre, je pourrais l'utiliser.
Mais je pense qu'il faut faire un tome 2, Martin de la Soudière, avec Ruisseau et avec toutes les entrées qu'on pourrait vous proposer, ce serait une formidable idée, la version participative,
également,
je vais y arriver.
Certains vont, je ne suis pas tellement mer, je suis beaucoup plus montagne, mais j'aurais pu prendre les chemins littoraux, ou éventuellement les îles, près de... Bon, mais j'avais pas assez d'éléments, et je suis pas tellement mer, donc c'est un peu dommage.
Il y a toute une j'allais dire une gamme, je sais pas si c'est le mot, mais il y a en tout cas énormément d'écrivains, on l'a dit, hein, qui parcourent ce livre. On a cité Gracq, il y a aussi Pierre Bergougnoux, Philippe Jacotet, Jean Giono, bien d'autres. Est-ce que vous diriez qu'il y a quelque chose qui les relie? Est-ce qu'il y aurait comme ça un point commun entre tous ces auteurs?
Entre les auteurs.
Ouais, tous les auteurs que vous citez dans le livre.
Si je me peux permettre, il y en a quand même pas mal, les 5 que je sais, les 7 que je cite dans Arpenter le paysage, ils sont dedans ou pratiquement tous. Sinon, dans votre question, c'est quoi exactement?
Est-ce que vous avez l'impression qu'il y aurait quelque chose qui relie l'écriture de tous ces auteurs? Est-ce qu'ils auraient quelque chose en commun très profondément?
Mais si vous parlez d'auteurs, je renvoie à Arpenter le paysage. Si vous parlez de lieux, je vous renvoie par moi et par vous. C'est pas le même d'un côté. On parle de l'expérience qu'on a du paysage, mais également les paysages est en cause. Et demain, on parle non pas de l'expérience, mais on parle des lieux. Et ces lieux, évidemment, induisent tel ou tel auteur à défaut de... Alors, dans les listes, il y en a un autre également. Alors, on en parle parce qu'on en veut, parce que c'est Maurice Barrès. Donc, ça n'a pas bonne presse. Il était quand même vraiment de droite et très catholique.
Oui,
et voilà,
dire.
Les lieux. Donc, je ne suis pas le seul à faire des listes. Une région d'un site reconnu. L'étroite prairie de Lourdes, entre un rocher et son gave rapide. La plage mélancolique où les Saintes-Maries nous orientent vers la Sainte-Baume. L'abrupt rocher de Sainte-Victoire. L'héroïque Vézelay en Bourgogne. Le Puy-de-Dôme. Les grottes des Égies. La forêt de Beauceliande. Le Mont-Saint-Michel, qui surgit comme un miracle des sables mouvants. La noire forêt des Ardennes. Toute inquiétude et mystère. Dont Rémy, enfin, sur sa colline. Alors, je me suis pas du tout inspiré de Maurice Barrès, mais dans mon livre, tout simplement, de lecture de la Garde des Michards à l'époque, donc il y a 30 ou 40 ans, il y avait des citations de Barrès. Et cette situation me paraît intéressante parce que chacun, j'ai dit tout à l'heure que chacun a un village en lui, porte en lui un village, mais on pourrait aller, on a un petit peu parlé, mais beaucoup plus loin, chacun porte en lui un paysage.
Vous, en l'occurrence, c'est essentiellement, pas que, mais pour, disons, la majorité des paysages français que vous choisissez d'évoquer.
Et là, français, je suis désolé pour...
Concrètement.
Pour les Écossais, les Irlandais.
Est-ce que c'est lié au fait que vous, l'expérience que vous avez sensorielle aussi, affective des paysages, c'est essentiellement des paysages français, ou est-ce qu'il y a une autre raison à ça?
Effectivement, je suis un misérable. J'aurais absolument dû, citer des auteurs anglais ou allemands ou même russes ou je sais pas quoi, dont je l'ai fait par paresse. Du moins, non, pas par paresse, mais parce que pas conduit suffisamment de fois à l'étranger, un peu en Italie, un peu en Espagne, mais j'avais pas de billes vraiment véritablement pour le faire. Donc, mais ce que je pense, c'est que l'émotion que promet un site, un motif, l'émotion, l'imaginaire qu'il met en branle, etc., sera le même s'il parle de la forêt de je sais pas quoi en Pologne, ou s'il parle d'un fleuve dans les montagnes rocheuses ou les sommets des montagnes rocheuses. Je pense que ultimement c'est la même passion, c'est la même ouverture, le processus mental, on va dire, pour apporter les grands mots, mental et social également, porte la manière dont on le décrit, on peut la trouver n'importe où. Et souvent, ça m'amuse de regarder les belles émissions, par exemple sur les altiplanos en Bolivie, ce qui me fascine, et je voudrais ne pas mourir sans avoir vu les altiplanos. Ben, quand je vois la platitude de ces altiplanos, immédiatement ça me fait non pas penser ni faire référence, mais les émotions que tel motif suscite, eh bien cette platitude, on peut la trouver dans les Landes, on peut la trouver dans les marais, on peut la trouver dans les étangs, etc. Donc finalement, ultimement, alors évidemment, le haut plateau du Tibet font rêver, Moi, j'arrive à rêver avec peu de choses, mais c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire ça, que le processus d'observation et d'image et de, finalement, d'un plateau à 1000 mètres ou d'un plateau à 4000 mètres, ils ont quelque chose ensemble. Là, en l'occurrence, c'est la platitude. Donc, les paysages, la Beauce également, on tape sur la Beauce, en fait, elle est très belle, très variée en plus. Mais tous les paysages en plat, quelle que soit la région, c'est le même processus.
Il y aurait une universalité comme ça à chercher du côté aussi de la rêverie et de la projection qu'on peut faire sur les paysages par-delà leur singularité.
Sur le philosophe, j'arrive pas à trouver il dit, tel sommet, il est complètement unique, mais on peut le comparer à plein d'autres sommets semblables, mais quand même, il est unique. J'aime bien.
Un grand
Georges
merci.
Georges Bertrand est géographe à Toulouse. Voilà, c'est fait.
Merci beaucoup, Martin de La Soudière, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler de ce livre, Par Monts et Par Vaux, petit abécédaire des paysages. Il est paru aux éditions Anamosa et on renvoie aussi, bien sûr, chez le même éditeur à cet ouvrage précédent, Arpenter le paysage, poète, géographe et montagnard, qui est paru aussi en édition Poche chez Payot Rivage.
France Culture, le Book Club, Mathilde Wagman.
Comme chaque mardi à 7h en fin d'émission, Lou Quevauvillier vient nous parler de la littérature lorsqu'elle s'aventure hors du chemin du livre. Bonjour Lou.
Bonjour Mathilde.
En particulier, aujourd'hui, vous vous intéressez à un phénomène dont je ne connaissais ni l'existence, ni le nom, et je ne sais pas d'ailleurs si je vais bien le prononcer. Alors, si je le lis à la française, ce serait le nanovrimo, mais c'est un terme, je crois, plutôt anglais, donc on dit comment nanovrimo. Vous dites comment, vous?
Oui, la prononciation est difficile. Moi, je vais essayer de faire comme je peux, car effectivement, si pour le commun des mortels, demain, 1er novembre, c'est un jour férié en France et une fête catholique, pour la communauté des nanoteurs et des nanoteuses du monde entier, c'est avant tout le top départ du NaNoWriMo, du National Novel Writing Month. En français, ça donne le mois national d'écriture d'un roman. Cet événement consiste à écrire un roman, donc, du 1er au 30 novembre, ou plutôt un premier manuscrit, un premier jet qu'il serait possible de retravailler par la suite. C'est Chris Bailey, un auteur américain, qui en 1999 a inventé ce défi mondial sur Internet, au même moment que l'arrivée des premiers ordinateurs connectés dans les foyers. La première année du NaNoWriMo, seules 21 personnes avaient participé. Aujourd'hui, on en compte près de 500 000 chaque année.
Ah ouais, quand même.
Alors, devant l'engouement face à ce projet, je me suis demandé dans quelle mesure se mettre dans les conditions d'un tel marathon était bénéfique pour écrire et en quoi ça pouvait être intéressant de privilégier la quantité à la qualité en termes de texte à produire, ce qui me semble au premier abord assez peu intuitif.
Mais est-ce qu'il y aurait là l'idée que pour réussir à écrire, il faudrait se préparer un peu comme pour réussir un exploit sportif ?
D'une certaine manière, en effet, j'ai vu plusieurs points communs entre la pratique de la course à pied sur une distance imposée et l'écriture en temps limité, comme c'est le cas avec le NaNoWriMo. D'abord, et c'est peut-être le plus évident, l'objectif est fixé dès le point de départ. Le nanoteur ou la nanoteuse n'a pas à courir les 42 km et quelques pour réussir son marathon, mais doit franchir le palier des 50 000 mots, ce qui correspond à peu près à un livre de poche de 175 pages. Pour y parvenir, pas de secret, il faut pratiquer à la fois l'endurance et le fractionner. Dans l'idéal, chaque jour, le nanoteur ou la nanoteuse doit sprinter et tapoter sur son clavier quelques 1700 mots. Ensuite, la plateforme officielle du NaNoWriMo, nanowrimo.org, dispose d'un compteur de mots automatique où les nanoteurs et nanoteuses peuvent regarder les statistiques et les graphiques qui leur indiquent le chemin qu'il reste à parcourir, comme les sportifs qui s'entraînent et qui examinent leur performance en comptant leurs pas grâce à leur smartphone. Mais pour ce qui est de la préparation de la course, Mathilde, il y a deux écoles, deux types de participants. Celles et ceux qui préparent tout à l'avance et qui planifient le texte à venir, on les appelle les planners. Et il y a celles et ceux qui vont les mains dans les poches. Eux, on les appelle les pantsers, qui est un mot formé à partir du terme pants, qui signifie en anglais pantalon. Entre les deux équipes, il y a une espèce de guéguerre virtuelle amusante. Pour les planners, les pantsers sont souvent les beaux parleurs qui parlent plus qu'ils n'écrivent et qui ne finissent jamais leur projet. Tandis que pour les pantsers, les planners seraient des psychorigides incapables de se laisser surprendre par des éléments des élans créatifs.
Bon, mais où se situe le plaisir d'écrire dans tout ça, Lou ?
Alors, je peux rappeler quand même, avant de répondre à votre question, que bien des auteurs et des autrices ne prennent pas de plaisir au moment même de l'écriture. On entend ce constat à ce micro, d'ailleurs, parfois. Mais pour revenir au NaNoWriMo, qui est un marathon choisi, on peut faire l'hypothèse que le plaisir d'y participer réside dans le fait qu'il s'agisse d'un marathon connecté, ce qui permet d'être seul, mais ensemble dans l'effort. Et on sait comme une équipe peut porter quand l'effort individuel coûte. À l'inverse des marathoniens qui courent dans un même espace au même moment, la communauté NaNoWriMo est éparpillés aux quatre coins du monde, mais sur le web, les conseils, les échanges d'impressions, les astuces autour des logiciels de traitement de texte et les encouragements circulent, notamment grâce à des forums et à des hashtags sur les réseaux sociaux qui permettent de vite trouver des alliés. La communauté en ligne est suffisamment solide aussi pour aller y puiser de la motivation en cas de coup de mou et n'est pas abîmée par la concurrence puisque tout le monde y porte son propre projet. D'après ce que j'ai pu lire sur les forums, ce sont les premiers temps du marathon qui sont difficiles, mais dès que la routine est installée et on comprend alors le principe d'écrire pour écrire au début pour se muscler et ne pas abandonner, les nanoteurs et les nanoteuses y trouvent du plaisir. Ce qui au début peut sembler comme un exercice contraignant et laborieux se transforme au fur et à mesure du mois en un exercice plaisant, un temps pour soi, un temps arraché au quotidien avec le plaisir de voir ses idées prendre forme sur l'écran et de les partager avec ses camarades de course. Endurance, entraide, objectif à atteindre, effort et plaisir dans l'effort, communauté vivante et active sur le net, on comprend comment le marathon d'écriture peut susciter autant d'adeptes.
De l'écriture comme d'un exercice d'endurance, un peu comme dans une longue randonnée, on n'était pas si loin de notre sujet du jour. Merci beaucoup. Lou, vous nous rappelez où on peut se renseigner donc sur le NaNoWriMo ?
Oui, le site officiel c'est nanowrimo.org.
Lecture numérique, votre chronique est à retrouver sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France. h 55, c'est l'heure de notre grand jeu dans le Book Club, le grand jeu des pages musicales. Pour jouer, c'est très simple. Au détour d'une lecture, vous tombez sur l'évocation d'un morceau musical, vous prenez en photo l'extrait en question ou vous le relevez par écrit et vous nous l'envoyez via le compte Instagram du Book Club ou sur notre adresse email lebookclub@radiofrance.com. Cela vient compléter notre petite collection d'extraits et chaque jour, nous en choisissons un pour le partager avec vous. Aujourd'hui, c'est Lucie qui nous a écrit via l'adresse mail de l'émission. Elle nous a proposé un extrait du roman de Fanny Taillandier, paru en 2021 au Seuil, qui s'intitule Farouche, un roman dont l'action se passe dans un futur proche. On n'est pas tout à fait dans le réel, mais presque. Paysage de Zach. Lent travelling à travers la vitre légèrement fumée du 4x4 urbain, sur des parkings et des enseignes, avec des accélérations et décélérations progressives entre chaque rond-point. Pas de piétons, hormis devant les portes coulissantes de chaque boutique, au loin, de l'autre côté des parkings, silhouettes indistinctes. Ici, au milieu, les vivants devenus automobiles, être clignotant, être rétrogradation, être cédé le passage. Sud-Soleil n'est que le chef-lieu d'une contrée entière, plane et non humaine, faite de hangars et de voies d'accès, de parkings et de zones de déchargement. Jean connaît la route, sait quand il doit changer de voie, accélérer. Il ne regarde pas vraiment. Il doit passer chez un fournisseur dont le local se situe aux marges de la ZAC, non loin des voies de chemin de fer qui marquent la limite avec la ville proprement dite, celle où des gens vivent, habitent, se déplacent à pied. Il écoute de la musique très fort dans le SUV, il a mis PNL, ce qui est toujours signe chez lui d'un besoin latent de s'extraire ou d'une grande fatigue.
Je traverse les frontières, croyant que mon cœur sonnerait moins là-bas. Je vais finir par m'y faire, je serai jamais heureux comme papa. Ta mère dit si on cherche pas d'amis. Nos rêves nous séparent, je ressens le vide. Pourquoi tu tournes autour des mots? Je suis seul, la lune me tourne le dos.
Je rentre
au
Aujourd'hui, à la prise de son, c'était Raphaël Rousseau, à la réalisation Lise Combe. Un grand merci à l'équipe du Book Club, Léa Weissgruss, Anouk Delfino, Jeanne Aléo, Soriane Delacroix, Didier Pinault, Alexandre Alaï-Bégovic, Marianne Chasseur et Marie Richeux. Vous pouvez réécouter l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez vous abonner à son podcast sur l'application Radio France. Vous pouvez nous écrire via le site de l'émission ou à l'adresse du Book Club, lebookclub@radiofrance.com. Très bon après-midi à toutes et à tous sur France Culture.